remercions infiniment pour avoir battu le froid et être là ce matin. Je vous invite à une semaine de la connaissance. C'est une semaine dans laquelle j'aimerais que nous puissions nous encourager les uns les autres, nous édifier les uns les autres autour de la parole de Dieu et surtout la personne du Saint-Esprit. Et cela est biblique. La Bible nous dit à notre foi que nous puissions ajouter la connaissance. Et si nous voulons bien communier avec Dieu, le Saint-Esprit qui vit en nous et qui est censé nous accompagner dans notre vie chrétienne, nous devons bien le connaître. Et c'est pourquoi cette semaine, nous allons tenter de nous édifier à connaître le Saint-Esprit, essayer de structurer cet enseignement, le faire asseoir, afin que nous soyons en mesure de bien communier avec lui. C'est pourquoi je vais vous prier, chacun, si vous le pouvez, je crois que vous le pouvez bien, si vous pouvez écrire, venez avec un bout de papier, écrivez. Nous aimerions faire ce que nos aînés dans la foi ont fait, ceux de l'église de Béret. Toutefois qu'il y avait un enseignement, il rentrait à la maison, il prenait le temps de revoir à leur propre temps. C'est ça ce que je vais demander que chacun d'entre nous fasse cette semaine. Disciplinez-vous, à part votre Bible, amenez un petit cahier, c'est juste 200 francs je crois, et écrivez. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour lire les Écritures, mais je vais plus faire référence. Ce sera mieux que vous puissiez les écrire, et ainsi vous pouvez les étudier à la maison. Parce que nous n'avons pas suffisamment de temps, et nous avons beaucoup. C'est toute une classe, les profs ici, les pasteurs ici le savent. C'est tout un cours que nous appelons pneumatologie, que nous allons essayer de simplifier pour vous. C'est un cours qui prend tout un semestre. Alors, nous allons essayer de le simplifier pour que nous puissions le comprendre. Et dans l'entretemps, je vais demander au diacre de se gêner. En tout cas, mettez-nous même comme des poissons dans ces sanctuaires. Je ne veux pas imaginer quelqu'un rester dehors, il fait suffisamment froid. Alors, si vous pouvez ajouter, et vous qui êtes déjà là, si vous pouvez occuper ces chaises, si on peut même ajouter d'autres par là, rassurons-nous que presque tout le monde est là. Et nous ne voulons pas avoir quelqu'un avec développer le froid après qu'il soit ici cette semaine le matin. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'être à ta présence et je prie que tu m'utilises comme un instrument entre ta main et prépare le cœur de mes frères et sœurs de recevoir de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, notre thème cette semaine ou ce matin, nous allons juste essayer de comprendre le Saint-Esprit. Comprendre le Saint-Esprit et tout ce que nous allons développer, ce sera autour de cela et nous aimerions que chacun puisse arriver vraiment à comprendre le Saint-Esprit, le connaître et communier avec lui dans sa vie chrétienne parce que c'est ça le souci. Je l'ai dit hier et je le répète ce matin, le Saint-Esprit est la moins enseignée et la moins comprise personne de la divinité. Nous savons que notre Dieu est un, mais il se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Plusieurs fois, nous enseignons suffisamment sur le Père et le Fils, mais le Saint-Esprit est moins enseigné dans beaucoup de cercles et ainsi moins compris. C'est pourquoi certains traitent le Saint-Esprit comme une puissance, les autres comme une force, et même la manière avec laquelle nous l'adressons, surtout dans nos langues locales comme le Kiswahili, fait voir que c'est une puissance. Vous écouterez quelqu'un prier « Tunaomba roho wako ishuke »« Roho wako itende » Donc, ce n'est pas une personne, c'est quelque chose. C'est une force, une puissance. Non. Le Saint-Esprit, je veux vous le dire dans sa nature bientôt, est Dieu, et par conséquent, nous devons l'adresser comme tel. Je suis un peu irrité de voir quand certaines personnes le traitent même vulgairement. Je passais quelque part dans cette ville, j'ai vu qu'il y a même un complexe scolaire Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez cette école? Je me suis posé la question quand j'ai lu ça et j'ai vu ça, qu'est-ce qui passait dans la tête du propriétaire de cette école, appelée son école Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe dans cette école? Je n'ai pas encore vu, je suis allé ailleurs, j'ai vu même un restaurant, le restaurant Saint-Esprit. Ça, c'est traiter le Saint-Esprit si vulgairement. C'est simplement parce que nous ne le connaissons pas, nous ne le comprenons pas. Je n'ai pas vu un restaurant Jésus-Christ ou un restaurant Dieu le Père. Pourquoi on peut nommer un restaurant Saint-Esprit ou une école Saint-Esprit? C'est simplement parce que nous ne comprenons pas qui est la personne ici et comment nous devons l'adresser et comment nous devons la révérer. Donc je crois que c'est ça le problème que nous avons. Alors, parlons un tout petit peu de la nature du Saint-Esprit, ou mieux les attributs du Saint-Esprit. Parce que si nous devons communier avec le Saint-Esprit qui est Dieu, nous devons connaître sa nature. Et dans sa nature, je vais soumettre deux choses rapidement. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et rapidement, j'aimerais que vous puissiez savoir qu'est-ce que la Bible dit de lui en tant que Dieu. Le Saint-Esprit, dans sa nature, il est Dieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 à 4, il est identifié à Dieu. Il est Dieu parce qu'il est identifié à Dieu. Dans ce passage, vous trouverez l'apôtre Pierre qui est entré de parler à Ananias, le voleur dans l'église. Il y en avait, et je crois qu'il y en a encore. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. C'est la même personne. Mentir au Saint-Esprit est égal à mentir à Dieu. Donc le Saint-Esprit est identifié en Dieu. Vous pouvez lire encore 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Vous pouvez lire encore Éphésiens chapitre 2, verset 22, où la Bible nous dit que nous sommes édifiés et devenus le temple de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, toutefois, le Saint-Esprit est identifié à Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit est associé à Dieu le Père et Dieu le Fils. Il est associé à Dieu le Père et Dieu le Fils. Quand vous lisez dans la formule du baptême que Jésus lui-même a soumise dans Matthieu chapitre 28, verset 29, il dit « Allez par tout le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est associé à même titre, à même niveau
que Dieu le Père et Dieu le Fils. Cela prouve à suffisance qu'il est Dieu. Vous pouvez encore lire 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, ou encore 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. Associé au Père, au Fils, à même niveau. 2 Corinthiens 13, 13, 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Troisièmement, il possède les attributs divins. Il possède tous les attributs divins. En tant que Dieu, nous savons que Dieu est éternel et le Saint-Esprit est aussi éternel. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, vous allez trouver cette vérité. L'éternité, c'est l'un des attributs du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'omniscience. Le Saint-Esprit est omniscient, comme Dieu est omniscient. Vous trouvez cette vérité dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. L'omniscience du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 2, 10. Troisièmement, il est omniprésent comme Dieu est aussi omniprésent. Ceci, vous le trouvez dans le psaume 139, le septième vers. Où David est en train de dire, « Où fuirai-je ton esprit ? Que j'aille dans les montagnes, dans les vallées, sous la terre, il est là, presque à ma poursuite, le Saint-Esprit, omniprésent. » Quatrièmement, omnipotence. Il est omnipotent comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, vous allez trouver cette vérité. Omnipotent, Zacharie 4, 6. Mais aussi par-dessus tout, il est saint. Son attribut, c'est la sainteté. D'ailleurs, nous l'appelons l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Vous trouvez ceci dans Romains, chapitre 1, verset 4 et beaucoup d'autres versets bibliques. C'est seulement pour vous dire que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, n'est pas moins que le Père, moins que le Fils. Il est égal, il est associé, il est identifié à Dieu le Père, Dieu le Fils. Il a le même attribut que Dieu a, la sainteté, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, l'éternité. C'est la même chose que nous trouvons concernant le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est, premièrement, Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit est une personne. La Bible nous montre à suffisance que le Saint-Esprit est une puissance. Est une personne plutôt. Étant une personne, bien que esprit, sans corps physique, c'est la même chose avec notre Dieu qui n'a pas un corps physique. La Bible le dit clairement dans les livres de Jean. Dieu est esprit. Et que ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, cela étant, j'aimerais que tu comprennes que le Saint-Esprit est une personne. Bien que n'ayant pas nécessairement un corps physique qui mange les ougali et les samaki comme vous et moi, mais il est une personne à part entière. Pourquoi je dis ça? Le Saint-Esprit a une intelligence. Le Saint-Esprit est intelligent pour dire qu'il connaît et comprend. Il connaît et comprend toutes choses. Et ceci, la Bible le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11. Il connaît, il comprend. Il connaît ce que tu penses. Il comprend ce que tu traverses, ce que tu expérimentes, que ce soit la difficulté de vie, que ce soit les amertumes, que ce soit je ne sais pas. Il comprend. Il comprend. Il s'identifie presque à ta souffrance. Le Saint-Esprit a des sentiments. Il a des sentiments. À ce sens, il peut être tristé ou attristé. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, la Bible parle de cela. Il peut être attristé. Il expérimente le sentiment d'amour comme personne. Vous trouvez ça dans Romains chapitre 15, verset 30. Il expérimente, il vit, partage, il ressent l'amour. Mais aussi, il a une volonté et des intentions. Étant une personne, il a la volonté et des intentions. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, vous trouvez cette vérité clairement explicitée là-bas, ou encore dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 7e. Comme une personne, il a la volonté et des intentions. Pas seulement ça, mais aussi il communique et parle avec les hommes. Le Saint-Esprit communique et parle avec les hommes. Vous allez vous rappeler dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, l'Église est en prière, en train de choisir des dirigeants, et le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à part qui? Paul et Barnabas pour le service ou l'œuvre pour lequel je les ai appelés. Ils communiquent, ils parlent dans Hébreux chapitre 3, verset 7. Vous allez trouver cela. Et même dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, cette vérité est encore explicitée. Mais aussi, comme une personne, le Saint-Esprit a des capacités de prier, d'enseigner ou de témoigner, comme la Bible le dit. Dans Jean chapitre 15, verset 26, vous allez vous rappeler, dans la promesse même de la venue du Saint-Esprit, Jésus déclare, quand il sera venu, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est donc une personne. L'apôtre Paul, quand il parle, il dit, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Prie pour nous. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne qui est capable d'enseigner, capable de prier, capable de témoigner au sujet de Christ. Donc, j'aimerais ce matin que quand nous croissons dans notre foi, quand nous croissons dans notre relation avec le Seigneur, n'oublions pas que Dieu en action sur terre et en nous s'appelle le Saint-Esprit. Il est là au milieu de nous, il est là en nous, il est là avec nous. À partir du moment où tu reçois le Seigneur Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur de ta vie, il te donne un compagnon de lutte, un compagnon de vie, un compagnon qui doit t'amener tous les jours à réussir dans la vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit. Donc la vie chrétienne, c'est une vie assistée. Une vie assistée par le Saint-Esprit. Donc tu ne te bats pas seul. Tu te bats avec Dieu qui est en toi. Alléluia. Nous devrions aimer le Saint-Esprit. Nous devrions communier avec le Saint-Esprit. Lui demander de nous assister à chaque instant de notre vie. Parce qu'il est là pour cette cause. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous aider à prier. Il est là pour nous encourager dans nos témoignages. Ainsi de... Donc, il est là pour nous assister à toutes choses. Mais malheureusement, nous ignorons sa présence et nous ne savons pas communier avec lui comme il se doit. Nous faisons seulement référence à un moment précis dans notre habitude de prier. À un moment, tu demandes seulement Saint-Esprit, remplis-moi et c'est fini. C'est pas ce que cela signifie. Remplis-moi et c'est fini. On dirait que c'est l'essence
Maintenant que le moteur est rempli, pouf, je pars.
C'est plus que ça. C'est une personne qui veut vraiment nous assister dans notre vie chrétienne. Et alors parlons rapidement de ce titre et nom. Parce que vous savez que vous ne connaissez pas quelqu'un jusqu'à ce que vous le connaissiez en profondeur. Le reverend Vincent, je ne sais pas combien de noms il a, mais il peut vous présenter deux ou trois. Mais je vous dis qu'il en a plus. Sa mère a un nom qu'il appelait sûrement. Ses collègues d'enfance vont se rappeler de son nom d'enfance. Et quand il était au primaire, peut-être pas plus au primaire, au secondaire, il avait un sobriquet sûrement. À l'université mêmement, vous tous comme moi, vous avez eu ce nom. Mais chaque nom a au moins une signification, une circonstance qui a fait que ce nom apparaisse, ok? C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il a suffisamment de noms qui essayent de le décrire et décrire son travail. Et le plus que vous le connaissez, et vous connaissez tous ces noms-là, votre intimité va croître. C'est ce que j'aimerais que chacun d'entre nous fasse. Nous aimerions vraiment, vraiment, vraiment entrer en intimité avec le Saint-Esprit. Il y a suffisamment de bruit et de brouhaha dans nos églises, on croit que c'est le Saint-Esprit. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Alors, rapidement, je vous étale ces quelques noms et titres qui sont dans vos Bibles. Sûrement, peut-être que nous n'avons pas eu suffisamment de temps d'étudier les Écritures et les découvrir. Le premier nom ou le premier titre qui se donne pour le Saint-Esprit, c'est l'auteur des Écritures. La Bible que vous et moi avons aujourd'hui a été complètement inspirée par le Saint-Esprit. Donc c'est lui l'auteur des Écritures saintes. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Donc aujourd'hui je vous donne un grand devoir à domicile de rentrer étudier et lire ces Écritures parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas cette habitude. On vient à l'église, on s'attend à ce que le pasteur puisse tout lire, tout expliquer. Mais cette semaine, je vous donnerai ce devoir. Vous venez, vous écrivez, vous rentrez, vous lisez, vous méditez, vous étudiez. Ça va nous aider, ça va vous aider plus. Parce que il faudrait que nous soyons les étudiants des Écritures. C'est bon d'étudier, de lire autre chose, mais c'est mieux d'étudier les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et quand vous lisez 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, la même chose sera dite. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. La Bible nous dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de qui? De Dieu. Encore la même identification. Inspiré par Dieu, poussé par le Saint-Esprit, parlé de la part de Dieu. Alléluia. Les Écritures que nous avons ont été inspirées par Dieu le Saint-Esprit, lui qui a aidé les auteurs de la Bible, que ce soit qui que vous pouvez appeler par votre nom ou par son nom. C'est ainsi qu'ils ont écrit la Bible. Les autres noms, c'est les consolateurs, les conseillers. Dans Jean chapitre 14, verset 16, vous allez trouver cela. Que quand il viendra, Il va vous consoler, il va vous conseiller. Ésaïe chapitre 11, verset 2, cela est aussi dit. Le Saint-Esprit, c'est un consolateur, c'est un conseiller. Or, pendant nos troubles, deux fois nous pleurons comme si nous n'avions pas quelqu'un pour nous consoler. Il est là pour nous consoler. Pendant les grandes décisions que nous voulons prendre dans la vie, nous allons consulter des gens qui ne nous aident à rien. Il y en a qui, au contraire, vous venez avec l'idée d'un projet, vous lui expliquez, vous ne savez pas quoi faire, paf, il prend l'idée et il fait de ça son projet. Pendant que vous vous battez pour vous organiser, lui, il a déjà mis le projet en exécution. Et vous êtes surpris, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es allé chez un mauvais conseiller. Nous avons un conseiller. Quelqu'un que nous pouvons consulter à chaque instant et lui demander, guide-moi, dirige-moi, aide-moi à prendre cette décision et à prendre la meilleure des décisions. Il est là, le conseiller, qui malheureusement nous ne savons pas consulter. Il y a un papa, un pasteur, que j'admire beaucoup. Toutes les fois qu'il prie, tu vas pleurer, tu vas rire. Parce que il a tellement développé une intimité avec Dieu, à telle enseigne que tu te dis, mais cet homme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quand il prie, lui-même va commencer à rire dans la prière. Et quand il commence à prier, il ne faut pas être pressé. Il prend son temps. Si c'est le minimum, la plus courte prière qu'il fait, c'est une heure. Ça, c'est la plus courte prière. Mais quand vous l'écoutez prier et quand vous l'écoutez parler à Dieu et quand il arrive à s'exprimer avec le Saint-Esprit, on dirait qu'il l'a mis sur une chaise là. Saint-Esprit, n'est-ce pas que tu es ici? Tu es toujours avec moi. Hein? Aujourd'hui, comment nous avons marché? Tu vois, à un moment là, j'ai voulu tomber. Heureusement que tu m'as rappelé. J'étais beaucoup. Tu parles si doucement et calmement. Mon ami, reste là. Tu peux rire. Le jour où il nous a visités à la maison, madame, mon épouse, ne l'avait pas encore rencontré. Et on a eu un repas et on a passé un bon moment. Après, il a commencé à prier. Je vous dis que ma femme a ri. Elle a fui, elle est allée se... Il n'y avait pas moyen de se retenir. Finalement, quand il a fini, elle dit, ça c'est quel genre de prière? Il dit, voilà. Les gens qui connaissent le Seigneur. Dans la prière, il dit, maintenant j'ai mangé, je suis assasié. Mais toi, tu n'as pas mangé avec moi, Saint-Esprit. Je vais rentrer te donner suffisamment ta nourriture. Comme ça, tu seras rassasié comme moi. Moi, j'ai mangé les foufous. Il commence à raconter la nourriture qu'il a mangée. Et alors, tu t'es dit, mais... À la fin du compte, j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont entrés en intimité avec Dieu. Mais le plus souvent, nous autres, nous sommes des formalistes, des copistes. Il n'y a pas l'originalité dans notre vie chrétienne. Nous voulons copier tel et tel, comment il prie. Et alors, nous ne sommes pas nous-mêmes. C'est celui qui convainc du péché, le Saint-Esprit, l'un de son grand travail pour lequel il a été envoyé dans le monde, c'est pour convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Jean chapitre 16, verset 7 et la suite. Je vous dis, nous qui sommes pasteurs et prédicateurs, nous comprenons mieux ceci. Parce que tu te tiens et tu prêches aux incrédules, aux gens qui de fois... Vous regardez, tu te dis, ah, pakabisa, kuna mtu mwenye ataokoka. Mais curieusement, à la fin, tu places un appel, il y a un homme, une femme, un jeune qui vient au Seigneur. Tu te dis, ça c'est Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en train de travailler pour convaincre le monde. Vous savez comment vous êtes venu au Seigneur. Ce n'était pas les paroles du pasteur ou du prédicateur. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de ses péchés. Mais pas seulement ça, un autre nom, ce titre, il est appelé le dépôt ou le sceau ou la gage de Dieu. J'aime cette portion-là. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22 et Éphésiens chapitre 1, verset 13. 2 Corinthiens 1, 22, Éphésiens 1, 13. Le Saint-Esprit, quand nous parlons du Saint-Esprit, bien-aimé, j'aimerais que tu saches. C'est mieux dit en anglais. A down payment. Le gage. Le sceau que Dieu place sur nous et pour nous. Je m'explique. Le sceau signifie l'original, l'autorité, la propriété d'une organisation. Cette église a son sceau. Et chaque lettre qui est écrite de cette église doit porter deux choses. La signature autorisée du responsable ou soit son assistant et le sceau qui donne l'authenticité. L'authenticité de cette lettre et l'autorité de cette lettre. C'est ce que Dieu fait. Quand nous recevons Christ, le Saint-Esprit vient à nous, il nous scelle pour dire que Kambale, pour dire que Vincent, pour dire que Léonie, tu m'appartiens. Tu deviens ma propriété privée. Tu es sous mon autorité. Tu m'appartiens. Et comme gage, il dit, j'ai payé une partie du prix, je reviendrai terminer la portion qui reste et te récupérer. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu a, par le Saint-Esprit, payé, pas une partie, mais la totalité, mais nous laisse seulement le temps en attendant quand il viendra nous retirer. C'est un peu comme ce que nous faisons dans les boutiques. Vous avez acheté quelque chose, vous avez tout payé, et sur la facture, vous écrivez à retirer. OK? Parce que vous n'avez pas le temps, vous allez chercher le transport. Prenez tout votre temps. Quand vous allez revenir, vous présentez seulement votre facture, vous récupérez votre marchandise. C'est ça un peu ce que Dieu a fait. Par le Saint-Esprit, il a payé tous les prix. Il le laisse là en attendant la rédemption, le temps qu'il viendra et nous prendre. Il n'y a pas un autre prix à payer parce que tout a été payé par Christ. Alléluia. Alors, nous devrions vivre sachant que j'appartiens à Dieu et qu'il pourra me récupérer à tout moment. OK? Un bon commerçant, quand bien même il est en train de vendre ses marchandises, il doit avoir en tête que non, celle-ci je l'ai déjà vendue, son propriétaire peut venir à tout moment la récupérer. Par conséquent, il la met de côté. Nous de même, nous devrions vivre sachant que Christ nous a acheté, Dieu nous a acheté par le sang de son Fils et il a laissé en gage pour nous le Saint-Esprit. Pour témoigner qu'il nous connaît, il a mis son sceau. Pour témoigner qu'il a tout payé pour nous, il laisse le Saint-Esprit en gage. Quand le moment arrive, il dit, c'est ça ici. Ma personne, et je fais quoi? Je la récupère. Bien-aimé dans le Seigneur, vivons avec cette vérité en tête. Nous devrions vivre à chaque moment prêt pour être repris par le Père, car nous lui appartenons. N'agissons pas comme nos commerçants, moins intègres, qui vont vendre ce qui était déjà acheté
Il s'est dit, bon, le temps qui a connu le temps, tout le temps. Et quand il arrive, et bon, il commence à mentir. On voit qu'il est encore, il y a beaucoup de dépôts. Pendant qu'il n'y en a pas là-bas, il va aller maintenant chercher, paniquer partout. Et finalement, il risque de présenter quelque chose de mauvaise qualité. Pas nécessairement ce que vous aviez acheté.
N'agissons pas comme ça. Nous appartenons au Père. Nous sommes sa propriété privée.
Nos autres amis de la rive gauche, qui pour aller adorer portent des robes longues et blanches, et qui se mettent à s'agenouiller, vous les connaissez déjà maintenant, n'est-ce pas? Pour eux, dans leurs enseignements, selon le Coran, ils disent que la boule noire, ou bien l'insigne noir qu'ils ont sur la face, c'est ça, le signe par lequel Dieu les reconnaîtra. C'est pourquoi il faut frapper durement ta tête sur le front, jusqu'à ce que tu fasses quoi? Que tu développes la marque. C'est ça. Pour eux, ils disent que c'est comme ça que Dieu va remarquer qui sont les vrais croyants. Mais nous, c'est Dieu lui-même vivant en nous. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de nous fronter. Nous n'avons pas besoin de frapper notre tête sur la terre. C'est si simple. Il vit en nous. C'est lui le gage du Père en nous. Alors, il est aussi appelé le guide. Le Saint-Esprit, c'est aussi le guide. Jean chapitre 16, verset 13. Il est notre guide en tout, et pour tout et partout. Il est aussi appelé le compagnon des croyants. Dans Romains chapitre 8, verset 9 à 11, 1 Corinthiens 6, 19. Il vit en nous, par conséquent, il est notre compagnon tous les jours. Il est aussi appelé intercesseur. Dans Romains chapitre 8, verset 26. À part être l'intercesseur, il est aussi le révélateur et l'esprit de toute vérité. Révélateur, esprit de vérité, Jean chapitre 14, verset 17. Jean 14, 17, 1 Corinthiens 2, 12 à 16. Il est aussi appelé esprit de Dieu, esprit du Seigneur, esprit de Christ. Esprit de Dieu, esprit du Seigneur, esprit de Christ. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16, vous trouvez cette vérité. Et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, vous trouvez cette vérité. Et 1 Pierre chapitre 1, verset 11. Matthieu 3, 16, 2 Corinthiens 3, 17 et 1 Pierre 1, 11. Il est aussi appelé esprit de vie dans Romains 8, 2. Il est l'esprit de vie. Il est l'enseignant dans Jean 14, 26. Mais aussi, il est témoin dans Romains 8, 16. Pourquoi tous ces noms-là? Parce que tous ces noms-là ont un sens, une signification, une importance dans notre communion avec lui. Tu as besoin de témoigner Christ, le Saint-Esprit va t'aider. Tu as besoin d'être enseigné, il est là pour t'enseigner. Tu as besoin d'enseigner, il peut t'aider à enseigner. Tu as besoin de la vie, l'esprit de vie est là. L'esprit du Seigneur est là, l'esprit de Christ est là dans ton adoration. L'esprit de Dieu est là, le révélateur, l'esprit de toute vérité qui va nous enseigner toute la vérité de Dieu est là. Nous ne savons pas intercéder, prier, il est là pour nous aider. Dans notre marche chrétienne, il nous accompagne. Il veut nous guider dans toute la vérité, il veut nous guider dans toutes les décisions. Il est là, le sceau. Il est là, la gage présentée et placée par Dieu lui-même. C'est lui qui nous convainc. Il nous rappelle nos péchés. Calmement et poliment. Il te dira, rappelle-toi la journée où tu t'es fâché. Rappelle-toi. Tu as mal agi. Calmement. Ça vient comme une petite pensée là. Hein? Une petite pensée là. il te parle. Tu dis, ne va pas là. Ne réagis pas de cette manière.
Et des fois, vous trouvez que les chrétiens deviennent charnels.
Parce que, ah, ben, on est là. Je n'ai qu'au Christ.
Non, mais il t'a pas au niège.
Quand bien même le Saint-Esprit te dit, ne réagis pas. Ça va en trop, c'est trop. Est-ce que vous vous posez la question, quand quelqu'un commence à dire trop, c'est trop, c'est contre qui qu'il dit ça? C'est contre le Saint-Esprit. À sa part, si tu vous mérites, dit trop, c'est trop. Il y a quelqu'un qui l'empêche de faire quelque chose, mais il se rebelle contre ce quelqu'un-là qui s'appelle le Saint-Esprit. À sa part, non.
À part, non, on va venir à ça.
Là, on est à la honnêteté.
Tu as déjà désobéi.
Et c'est après que tu commences à te dire, ah, aïe,
comment j'ai fait ça?
Comment j'ai parlé de cette manière? C'est parce que tu as désobéi, tu as ouvert la porte à l'autre, l'ennemi qui t'a détruit. À cause du temps, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et nous allons continuer demain. Cette semaine, c'est une semaine de la connaissance. Alors, il n'y aura pas beaucoup de bruit, mais écrivez plus, rentrez étudier. Ce que nous avons partagé, nous continuons demain. Que Dieu nous bénisse. Amen.